qui est du Centre international de Sri Aurobindo Ashram. Alors, je vais vous lire son livre, le chapitre 9, Les temps prééternels. Si en notre chute, en notre impression d'une chute résidait toute notre gloire, le sens du mal auquel chaque jour nous astreint à la fois s'expliquerait de lui-même et aussitôt disparaîtrait. Seule l'espèce à posséder cette conscience qui sépare et divise, nous saurions que nous ne sommes pas tombés, que nous nous élevons, que nous n'avons pas été rejetés, mais que nous nous approchons de la divinité qu'au prix d'un tourment unique et admirable, en un quotidien sacrifice de tout notre être. Nous exprimons une nouvelle phase de la conscience terrestre dans son ascension et sa redécouverte de la beauté dont elle est issue. Alors, les temps prééternels, aux lumières voyageuses transmises d'espèce en espèce, de génération en génération, afin qu'à notre tour nous soyons, et d'abord que nous soyons plus conscients et plus clairs que ces lointains ancêtres sauvages, arboricoles, qui soudain cessèrent de savoir aussi bien que jadis grimper aux arbres et s'y mouvoir. Infinie impatience de cette lumière couvant sous la carcasse hirsute et voûtée de ces mutants, et grandissant à leur insu, à eux qui pourtant la léguaient à l'avenir mystérieux. Ininterrompue est notre lignée, même si nous n'en avons pas encore aujourd'hui retrouvé tous les maillons. Un seul mouvement se dessine depuis l'aube des temps. Un seul être se dresse, redresse le front vers le ciel et découvre peu à peu la splendeur du soleil. Et en son début, cet être est l'informe peuplade des singes, dénaturés, tandis qu'à présent cet être en nous, un seul être, en ses diverses phases, et dont nous ignorons ce qu'il sera demain. Pétri par un rêve qui en nous se réalise, instrument d'une volonté qui aboutit à nous et manifestement doit nous dépasser ou nous enseigner à nous dépasser nous-mêmes. Il y a eu ces êtres qui, moins que nous, s'interrogeaient, étant mieux que nous coulés dans le moule de la nature ou y étant tout simplement modelés d'une autre façon. Du moins, les lentes questions qu'ils pouvaient se poser, nous ont-elles suscité? Du moins, leur incompréhension et leur impuissance ont-elles appelé notre pouvoir de comprendre comme notre vertige, notre douleur, notre mutinerie un jour enfanteront autant notre sagesse, une race plus accomplie. Nous ne savons pas de quelle couleur étaient leurs yeux, leurs cheveux, leur peau. Nous savons seulement qu'ils étaient avant nous et que notre peau, nos cheveux, nos yeux sont en nous leur héritage et en nous poursuivent la prise de conscience du monde commencée en eux et avant eux, dans des espèces dont nous ne savons à peu près presque rien et qui obscurément remontent les unes aux autres jusqu'au premier micro-organisme à l'autre bout du temps lorsque la vie commença de frissonner au sein des eaux. Nous sommes triomphe sur les ténèbres et nous nous imaginons déchus. Nous sommes grandissante élévation et nous nous imaginons flétris et condamné. Nous sommes libération, toujours plus ample et vive, et nous nous imaginons prisonniers. Notre émotion ne serait-elle pas celle d'enfants émerveillés si aujourd'hui, sur une planète réputée rebelle à toute vie, apparaissaient de la même façon d'infimes organismes contenant les myriades d'efflorescences futures, les prairies à venir, les animaux à venir, les dynasties d'hommes à venir, le mystère d'avènements plus lointains, pour nous encore imprévisibles. N'accueillerons-nous pas par des larmes de joie le prodige d'un brin d'herbe sur Mars? Ne frémisserions-nous pas d'ivresse si le ciel de Vénus s'envolait, un oiseau aux ailes bleues? Et quel péant n'entonnerons-nous pas si souriaient des êtres à la surface d'autres mondes, soi-disant invivables? Mais l'habitude a tétanisé nos cœurs. Lorsqu'il s'agit de nous, nous ne voyons plus rien. Nous sommes fermés à ce qui nous entoure et qui est hymne incessant, création perpétuelle de la divinité sur la terre. Si seulement l'amour pouvait nous venir pour les premiers fragiles indices tracés, au prix de centaines de millions d'années de labeur somnambule à la surface de la terre, pour annoncer le grand voyage de la vie vraie. Si seulement nous pouvions voir en nous plus claire profondeur, s'ébranler la procession des espèces se masquant et s'enfantant sans fin les unes les autres. Si seulement notre conscience pouvait embrasser l'incalculable mouvement des primes formes de vie érodant inlassablement la pierre et mêlant la poussière, leur chétive dépouille en un sacrifice aveugle et inéluctable. Aussi nécessaire, en fait, qu'apparemment immotivé, changeant ainsi un énorme désert rocheux en la source enchantée d'êtres multitudinaires, toujours plus riches et plus variés. Si seulement nous saisissions le processus de cette alchimie cosmique et y savions déchiffrer l'éclosion graduelle de l'être doré qui, de toutes ses formes, ne peut manquer de naître un jour. Si seulement nous comprenions, pour ce faire, l'enchaînement des étapes qui mènent jusqu'à nous et qu'aucun hasard n'y saurait présider, mais qu'au contraire, tout est gouverné par une volonté qui sait, qui voit, et de ce fait écrit dans la langue de la matière la beauté de l'esprit. Alors, nous sentant fondus enfin dans l'immesurable courant de la création universelle, y participant consciemment et volontairement, aspirant à traduire toujours plus de conscience et de divinité dans le concert des formes innombrables, nous connaîtrions le sens du monde et notre vie entière baignerait dans la lumière et la joie de cette connaissance. Mais cela, nous ne le pouvons pas encore, car c'est précisément cela qui nous est refusé par la nature. La constitution qu'elle nous alloue ne nous en empêche. En le fourreau d'un corps, elle enferme chaque homme et le leurrant à plaisir, l'induit à croire qu'à ce corps se limite sa conscience, se borne son pouvoir. Ainsi, pour notre précaire perception sensorielle, sommes-nous séparés du reste de l'univers et coupés de son origine? Alors, si nous considérons l'holocauste des âges, le progressif épanouissement de la conscience, depuis le temps inappréciable ou brûlant dans l'espace, le magma s'est refroidi et a donné naissance à la Terre. Si nous considérions l'inexorable investissement de la mort, ou plutôt de la non-vie par la vie, la transfiguration de l'étroit désert nocturne en un diurne jardin illimité, la conscience naissant de l'inconscience et une joie de plus en plus intense et diverse s'exprimant dans des myriades d'êtres minuscules, colossaux, représentant chacun un son de la langue indéchiffrée de Dieu, une note de son chant éternel. Si nous considérions que tout cela nous précède et nous a engendré, alors nous percevons que notre destin est nécessairement autre que celui dont nous nous obsédons, qui est décidé du premier au dernier instant, voulu et œuvré par Dieu à l'expression de sa lumière et de sa vérité. Il s'inscrit dans une architecture ineffable dont chaque ligne nous porte depuis toujours et dont chaque point à jamais nous purifie de l'ombre où nous croyons nous mouvoir. Nous vivons dans la lumière du divin et avons l'illusion d'être recouverts d'ombre. Et cette lumière et cette ombre, cette vérité et cette illusion se jouant en nous, écrivent notre histoire d'avance, promise à la dissolution des ténèbres et au sacre du soleil. Vague après vague, la vision créatrice répand sur la terre d'imprévisibles songes qui peu à peu se réalisent. Pour nous, nous sommes à ce jour le songe le plus beau de la terre, le plus achevé de ses œuvres. Où est alors la malédiction? Dans ce sens que nous avons de notre séparation, dans ce divorce, que nous éprouvons d'avec l'immensité cosmique et qui aussitôt nous l'a fait croire hostile, dans cette nostalgie de notre origine dont tout nous persuade que nous l'avons perdue et qui pourtant ne cesse de nous entourer. Dans cette irrémédiable solitude où se déroule notre vie, et cette solitude encore plus irrémédiable de la mort, mais si justement tout cela qui nous blesse et nous effraie était notre privilège, si c'était le signe justement qu'à cause de cette souffrance plus térébrante que toutes celles endurées par les autres espèces et les autres règnes, notre conscience ne cesse de s'aiguiser, de grandir en pouvoir, de se parfaire, ne cesse de heurter aux portes de l'avenir inconnu, d'aspirer à ce qui étant inatteint est encore Dieu pour nous. puis-je, ô puis-je à tout jamais me dépasser et régner en souveraine sur tout ce qui aujourd'hui me déchire et me divise, ce qui m'attire ici et là me torture, sur le plaisir aussi vain qu'est vaine la peine. Puis-je, en un élan de flamme, m'exaucer jusqu'à un autre ciel où les choses ni le monde ne m'apparaîtront plus de la même façon. Ainsi parle l'âme en ses secrètes demeures, l'âme qui sait l'utilité de tout cela et qui, ses yeux immenses fixés sur l'invisible, rêve l'avenir au nom d'éternité. L'âme qui accepte la déchirure et la division, qui consent au plaisir et à la peine, qui sanctionne ce que nous ne comprenons pas. Cette béance du fond de notre cœur, plaie jamais fermée, arrachement à la prime vérité du monde, abîme où sombre notre espoir, bouche oraculaire de notre mort future. En nous, de nous croire plus que jamais perdus par notre faute ou par celle d'un lâche pouvoir qui nous guette au fond de ces tourbillons cosmiques et se repaît de nous. De nous croire tomber dans cet état dont l'empreinte en creux demeure seule en nous, ainsi qu'un lit déserté par l'amant de notre âme, de pleurer sur l'amour évanoui que nous n'avons jamais connu, mais dont en nous la caresse fantôme avive nos souffrances. Pourquoi, ô Dieu d'amour, nous as-tu arrachés à ton étreinte, où lumineux et muets nous étions un avec toi? Pourquoi, d'un geste d'égorgement, nous as-tu chassés de toi et envoyés à la mort? Comment nous ne croirions-nous pas maudits, comparant la splendeur de ta création à notre impuissance, notre peine et à nos larmes, mendiant en bas des astres un peu de ta clémence? Quelle aumône avons-nous? La moquerie des dieux exécutant tes ordres et les promesses de mourir. Toute vie est-elle donc déclin, tout envol, pourrissement? Or l'âme, derrière notre masque atterré, ne cesse de sourire, offrant comme un encens aux pieds de son Seigneur et Maître nos sanglots et nos cris. L'âme sourit et sait. Elle sait le pourquoi de ce qui nous épouvante et accepte, par amour, par une sorte de complicité divine, ne pouvant être qu'entièrement soumise à celui qu'elle aime à jamais, en l'enceinte de ce corps comme au-delà du monde. Et de sa lumière, l'âme imprègne notre conscience obscure, chuchotant doucement des mots où se dissout l'hypnose de la vie. Ô homme, écoute, toi qui te crois déchu, écoute l'amour et sache que le divin t'aime. Depuis toujours il t'aime et toujours il t'aimera, quoi que tu fasses, et pu faire ou crois que tu feras. À nous de nous interroger alors, si en notre chute, en notre impression d'une chute, résidait toute notre gloire. Le sens du mal auquel chaque jour nous astreint à la fois s'expliquerait de lui-même et aussitôt disparaîtrait. Seule espèce à posséder cette conscience qui sépare et divise nous saurions que nous ne sommes pas tombés, que nous nous élevons, que nous n'avons jamais été rejetés, mais que nous nous approchons de la divinité qu'au prix d'un tourment unique et admirable, en un quotidien sacrifice de tout notre être, nous exprimons une nouvelle phase de la conscience terrestre dans son ascension et sa redécouverte de la beauté dont elle est issue. Oui, ce que nous nommons chute est en fait ascension. Oui, cette malédiction que nous sentons peser sur nous est signature cryptée de notre extase d'être. Oui, notre sens d'une injuste séparation, notre souffrance de tous les instants, notre dégoût et notre honte, nos peurs inavouées et nos défis bravaches et notre immense inespoir. Tout cela que nous sommes les seuls à éprouver sur cette terre est la preuve que justement nous sommes les seuls à avoir dépassé les bêtudes où rien de cela ne peut se percevoir et où tous les autres règnes se laissent créer et engloutir sans se douter de rien. Notre souffrance est la bannière sous laquelle nous nous rangeons pour conquérir les cimes vierges du futur. Que l'on ne demande pas à quoi ressemblent ces signes. Nous ne les avons jamais vus. Mais le mouvement est en nous, aussi inné que tout ce qui nous fait homme. Le mouvement est en nous, qui nous élance vers elle et nous contraint de verser le tribut de notre sang. C'est un instinct de la race, souffrir, savoir plus et davantage, souffrir pour arracher le bandeau qui aveugle les yeux du monde, souffrir pour arracher le bâillon qui étouffe la voix du monde, encore souffrir et toujours arracher, et tout en nous est souffrance, en fait, et tout est arrachement. Mais c'est en vue d'une conquête à laquelle la force nous fait participer, quoi que nous fassions sur terre, et qui, lorsque nous l'aurons remportée, nous immobilisera, transfigurée en la splendeur découverte. Immobile au bord d'un océan solaire, nous nous tiendrons un jour. Et toute la douleur s'effacera de notre mémoire. Nous reconnaîtrons cette lumière impérissable qui, sans savoir, qui sans le savoir, nous cherchons aujourd'hui, que tous nos gestes poursuivent depuis le début des temps. Gestes d'amant, gestes de vie, gestes de mort, gestes sacrés ou profanes, de rois qui donnent, reçoivent ou s'emparent, gestes de guerriers, de poètes, d'enfants, de maîtres ou d'esclaves, tous nos gestes sans trêve, depuis des centaines de milliers d'années fouillent les entrailles de la nuit pour en extraire l'or mystique du jour éternel. Car nous ne devons pas nous y tromper. Au bout de l'arme qui crache le napalm, il y a Dieu autant au bout de la prosternation devant les figures de la divinité. Au bout de la caresse et de la meurtrissure, même Dieu attend. Au bout du moment qui protège et de celui qui dévaste, il n'existe que Dieu. Tout tend vers lui, tout ce que nous faisons, notre bien ou notre mal, notre grâce radieuse et notre abomination, notre vérité, notre mensonge, nos grandeurs, tout concourt à un seul but, qui est Dieu, et qu'un jour, face à face, nous verrons, devenant immobiles comme lui, resplendissant et pur. Le jour du jugement ne peut être que le jour du pardon, et pas même de pardon, car cela suppose qu'il y a eu une faute, ne peut être que le jour d'amour et de joie suprême. Si le temps doit s'arrêter, basculer soudain dans l'immobilité, nous fixer nous-mêmes face à l'Éternel, ce ne peut être que pour nous donner l'amour dont tout notre être a faim. Ce ne peut être que parce que, après tant de cycles obscurs, nous serons alors prêts à vivre dans la lumière du divin qui est en nous et qui est nous et qui est tout ce qui est partout autour de nous. Car voir Dieu, c'est nécessairement le devenir. Et le jour où l'humanité paraîtra devant Dieu aussitôt, elle sera elle-même Dieu. Et l'univers entier pour elle sera Dieu. Et toutes ses erreurs et toutes ses souffrances n'existeront plus. Quel Dieu, en effet, oserait nous châtier? Quel Dieu oserait nous condamner à des maux éternels parce que nous avons eu mal et souffert? Et qu'est-ce qui, justement, est ce prétendu péché dont nous nous sentons sans cesse accusés, sinon une autre forme de la souffrance que chaque jour nous apporte? Un aveugle de ne pas y voir. Faudrait-il alors qu'un être suprême nous blâme pour ce qu'en obéissance à des lois qu'il a édictées, qu'il nous impose de faire et qui nous est une torture permanente, dépend-il de nous d'être murés dans l'erreur? Qui, ayant vu Dieu un seul instant, s'étant soi-même connu Dieu, voudrait être réduit à l'ignorance et aux ténèbres. Dieu ne peut nous punir, ni nous ni personne. Si tout est lui et doit lui redevenir, mais justement si tout est lui, qu'est-ce ce mal dont nous craignons le châtiment? Que sont cette souffrance, s'il n'est d'autre demain pour la création en terre qu'une fusion de la divinité, qu'un éternel baiser de lumière, qu'une plongée sans fin dans le regard du soleil? S'il n'y a que cet amour éternel que demain doivent manifester, comment cet amour peut-il aujourd'hui nous infliger un si constant supplice? D'un terme à l'autre de l'énigme, nous sommes sans fin renvoyés. Ou bien nous en sommes coupables et tremblons devant Dieu, ou bien Dieu lui-même est coupable. Des murs je retors qui ne créent que pour assouvir d'immondes appétits nous torturant ici avant de nous damner au-delà. Comment préférions-nous une insanité de l'autre? La coupe empoisonnée de la souffrance nous enflamme et nous fait proférer un verbe de folie. Pas plus que la mort, nous ne savons définir ni justifier la souffrance qui, autant que la mort, pourtant pèse sur notre absurde destinée. Mais si vraiment il n'existe que Dieu, si vraiment tout tend à exprimer la divinité enclose en l'ombre du monde, à faire jaillir de la nuit des sources de lumière, si tout est ce divin qui, peu à peu, s'éveille, ne se pourrait-il pas alors que la souffrance soit ce qui le tire de son coma, soit ce sourcier miraculeux et oni qui fait fleurir les étoiles en frappant les flancs silencieux de la ténèbre primitive. Enfermée en elle-même, repliée sur ses secrets, ainsi était la terre à son début, verrouillée sur un rêve sans image, asphyxiée par l'inconscience, noyée dans les eaux bitumeuses de la nuit cosmique, ainsi était-elle et ainsi serait-elle demeurée si une force ne l'avait fracturée, si la vie n'avait plongé en elle son glaive ardent et n'avait pendant d'innombrables millions d'années labouré ses flambeaux moroses pour y susciter les toutes premières formes de conscience. De quelles affres la terre endormie a-t-elle payé sa remontée hors de l'abîme du sommeil et de l'amnésie? De l'insondable obscurité, sa voix somnambule s'est fait entendre, s'élevant et retombant, puis s'élevant de nouveau en se déployant de plus en plus et répandant ses harmonies à travers le système solaire, ainsi qu'un cantique de gratitude saluant la lumière créatrice. Alors, je vais terminer les temps pré-éternels par une fin qui est un jour vient où l'enfant quitte ses parents, non parce qu'ils l'ont jadis battu, mais parce qu'il doit s'accomplir. Un jour vient où l'homme doit quitter ses dieux, non parce qu'ils l'ont tourmenté, mais parce qu'il doit s'accomplir. Et ce jour est venu. À notre accomplissement, ce tournant imposé par les dieux fut toutefois nécessaire et indispensable, qui nous sauva du crépuscule béat où nous serions autrement enfermés. Car nous aurions pu être une race parfaite, du moins nous est-il loisible de l'imaginer, une race parfaite et statique, enlisée dans une demi-lumière qui aurait à jamais contenté, que nous n'aurions pas cherché à dépasser pour en découvrir une autre, plus grande, et une autre encore, et toujours une autre. C'est alors qu'en vérité nous serions prisonniers des dieux ensorcelés par le sourire de leurs lèvres et de leurs yeux. Nous serions incapables de découvrir la raison de notre être. La sainte somnolence de notre âme nous tiendrait lieu d'éveil à sa divinité. L'engourdissement mystique de nos sens remplacerait l'abrasive ardeur de notre volonté de savoir, coûte que coûte, ce qu'est le monde et ce que nous venons y faire, plus encore que celle que nous menons aujourd'hui et qui nous rebute et dont nous rebute la violence. Notre vie serait une mort, une suave stagnation de vestiges apprivoisés. Nous n'aurions peur de rien. nous n'aurions besoin de rien. Nous ne souffririons de rien en cet endormissement gracieux de notre conscience. Ô Dieu, délivre-nous des dieux. Ô Dieu, qu'ils nous empêchent de dormir et nous contraignent ainsi d'espérer te revoir. Alors, d'espèce en espèce, mutation après mutation, la loi divine ne fit que s'avérer plus implacable. Ou bien l'espèce supporterait la souffrance de sa mue nécessaire, ou elle disparaîtrait. Ou elle accepterait de s'illuminer, ou elle retomberait dans la nuit. Ou par la souffrance, elle conquérerait de nouveaux pouvoirs, ou toute puissance lui serait retirée. L'homme est le fils de cette souffrance cosmique qui, depuis le début de la vie sur Terre, déchire le rempart des ténèbres et arrache l'été qui recouvre les yeux des créatures pour qu'enfin leur soit visible le soleil de leur être en son ultime vérité. Voilà. Alors, je me permets de terminer aujourd'hui ce que je viens de vous lire, les temps prééternels de Arshaka, qui était de l'ashram de Sri Aurobindo et qui était aussi un ami que j'ai connu en France et à l'ashram de Sri Aurobindo. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture. Merci Douce Mère, merci Sri Aurobindo. Ganga Lakshmi.